Je vous propose que ce matin, on étudie la prière et comment est-ce que nous devons prier. Et pour cela, je vais commencer par prier. Notre Dieu, notre Père, toi qui prends soin de nous chaque jour, toi qui ne manque pas de nous bénir, qui nous permet d'être là ce matin en toute liberté. Nous voulons te remettre cette étude pour que tu nous enseignes, que par ta parole tu nous diriges, tu nous montres quelle est ta volonté, Père, et que nous sachions la mettre en pratique dans notre vie, dans notre cœur. Amen. L'apôtre Jacques nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 3. D'ailleurs, il est dit aussi que tout ce que l'on demande en son nom, on le recevra. Et Jacques nous dit que si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande mal. Alors, si on demande mal, la question qu'on devrait se poser, mais comment est-ce que l'on doit demander? Pour que notre prière soit exaucée, c'est ce que l'on souhaite, on doit bien demander. Et comment est-ce qu'on doit bien demander? Je vous propose qu'on prenne pour exemple la prière de Salomon. Parce que cette prière a la particularité, c'est que Dieu lui-même nous indique ce qu'il a apprécié dans cette prière. Alors, on va prendre dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 à 15. Premier livre des Rois, chapitre 3, versets 5 à 15. Donc, c'est la prière de Salomon au tout début de son règne. Un Roi, chapitre 3, verset 5. Il nous est dit... À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, « voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Voilà la prière de Salomon. Prière dans laquelle Dieu nous dit, cela plut au Seigneur. Cette prière plut au Seigneur. Ce n'est pas une prière très très longue, mais il y a beaucoup de choses déjà dans cette prière. Et surtout dans ce que le Seigneur nous dit après de cette prière. La prière de Salomon, elle commence par une confession, une adoration de Dieu, de ce que Dieu est. Dieu est un Dieu d'amour qui bénit et qui a eu une grande bienveillance envers son serviteur David, le père de Salomon, envers Salomon lui-même, qui est fidèle, il est juste. Alors, David est fidèle et juste, mais Dieu est fidèle et juste aussi. Donc, il y a cette confession de Salomon en ce que Dieu est. Il y a l'humilité aussi de Salomon, qui reconnaît qu'il est jeune, sans expérience, qui manque de compétences. Et enfin, la demande de Salomon. Salomon demande un cœur intelligent pour juger le peuple de Dieu. Je vous propose que on commence par voir, avant de voir ce que Salomon a demandé, qu'est-ce que ça signifie que de demander un cœur intelligent. Ben, je propose qu'on commence par voir ce que Salomon n'a pas demandé. Parce que c'est ce que Dieu commence par relever. Il commence par dire, Dieu, que c'est parce qu'il n'a pas demandé certaines choses qu'il va lui accorder ce qu'il a demandé. Et alors, qu'est-ce qu'il n'a pas demandé ? Ben, la première chose qu'il n'a pas demandé, c'est la longue vie. Le Seigneur dit, parce que tu n'as pas demandé la longue vie. Qu'est-ce que ça veut dire la longue vie ? On arrive bientôt aux fêtes de fin d'année, et puis il va y avoir la nouvelle année. Et comme tous les ans, on va avoir le cortège de bonne année, meilleurs vœux, et surtout la santé, comme tout le monde le demande bien. Hein, comme si c'est quelque chose de primordial qui passe au-dessus de toute chose. Eh bien, la longue vie, c'est effectivement c'est le désir de santé, de vivre longtemps, en bonne santé. C'est un désir qui est légitime, hein, n'est-ce pas ? Et c'est une préoccupation de beaucoup d'entre nous. D'autres personnes font cette demande de santé, on le voit dans la Bible, par exemple avec le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, eh bien, il était très malade, malade à mort, il est dit. Donc il était proche de mourir tellement qu'il était malade. Et lui, il va faire cette prière. Il va prier pour la santé, pour aller mieux, pour s'en sortir. Dans Ézéchias, dans 1 roi, chapitre 20, versets 1 à 19, on voit cette prière d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque l'Éternel, excusez-moi, lorsque l'Éternel, lorsque la parole de l'Éternel, pardon, lui fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. » Et ainsi, donc, Ézéchias va être guéri. Il va avoir 15 années supplémentaires à sa vie. Mais on va voir que de ces 15 années supplémentaires, eh ben, elles ne vont pas être aussi bien que les précédentes, malheureusement. Ces 15 années ne vont pas lui servir. Et même, ça va aller jusqu'à ce que, lorsque l'Éternel va donner un nouvel avertissement, en disant que, eh bien, tout Jérusalem, toute la population va être déportée, va être emportée à Babylone. Donc c'est quelque chose de catastrophique pour le peuple de Dieu, pour le peuple de ce roi, Ézéchias. Eh bien, Ézéchias va répondre à la parole d'Ésaïe, la parole de l'Éternel qu'il a prononcée, et il dit, bah, que cette parole est bonne. Et il ajoute, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Il a pris ce que Dieu lui a accordé, cette santé, et Dieu lui a accordé aussi la paix pendant la fin de ses 15 années supplémentaires. Bah, il prend pour son content et s'en satisfait. C'est bon, voilà, je suis tranquille, Dieu m'a accordé ce que j'ai demandé, je demandais de la bonne santé, il a dit qu'il me l'a donné, donc c'est bon, maintenant, le reste, c'est pas bien grave. Beaucoup, une grosse différence entre cette prière et celle de Salomon, d'abord parce qu'effectivement, il demande la santé pour lui, et non pas pour son peuple, et on voit d'ailleurs après que ben, finalement son peuple passait bien, bien après sa propre santé. Mais surtout parce que au lieu de commencer par adorer Dieu et s'humilier, il commence par s'auto-féliciter en disant tout ce qu'il a fait de bien pour Dieu jusqu'à présent. Mais Dieu, dans sa bonté, eh bien, il accorde quand même la réponse à cette prière. Mais la conséquence n'est pas bonne pour Ézéchias, puisqu'il ne va pas glorifier Dieu avec cette réponse-là. Et on pourrait dire, on pourrait comprendre pourquoi est-ce que si Dieu n'avait pas accepté cette prière, et bien on pourrait comprendre pourquoi il n'aurait pas accepté, parce que peut-être que ça aurait été bénéfique pour le peuple et pour Ézéchias lui-même. Il aurait peut-être mieux compris ce qu'il devait faire. Et là, on voit que ben, finalement, d'avoir demandé la santé, ça n'a pas été utile pour Ézéchias. Ça ne lui a rien apporté. On a d'autres exemples ainsi dans la Bible où quelquefois, eh ben, des exemples de guérison où quelquefois, eh ben, soit Dieu accorde, soit Dieu n'accorde pas. On a l'exemple de Paul avec son écharpe dans la chair. Alors, on ne sait pas si c'était une maladie, un handicap. Il y avait quelque chose en tout cas qui le dérangeait. Il a demandé par 3 fois de lui retirer cette écharpe dans la chair et Dieu a refusé pour que Paul soit gardé dans l'humilité et qu'il ait la force de la grâce. Ce qu'il nous est dit en 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 6 à 10. L'autre exemple aussi, c'est les 10 lépreux que Jésus a guéris. Il les a tous guéris, les 10. Il a répondu à leur demande de guérison. Et sur les 10, Un seul va reconnaître la gloire de Jésus et va revenir lui rendre grâce. 10%. C'est bien peu. Même si le Seigneur nous apporte ses bénédictions, cette guérison, quelquefois, est-ce que c'est vraiment là l'essentiel de ce que nous devons demander et avoir ? C'est malheureusement le symbole de notre comportement. Très souvent, on demande à Dieu la guérison, et puis, lorsqu'elle arrive, est-ce que nous savons reconnaître son œuvre ? Est-ce que nous savons reconnaître que c'est Dieu qui a agi ? Et s'il ne nous donne pas la guérison, est-ce que nous savons accepter cette épreuve pour sa gloire ? Parce que c'est dans ma faiblesse que la force de Dieu s'accomplit ? Comme peut le dire Paul. On aimerait bien vivre tout le temps dans les plaisirs, dans la facilité, on va dire. Mais même les gens de ce monde reconnaissent qu'aujourd'hui, vivre dans la facilité n'est pas une bonne chose. J'entendrai l'autre jour à la radio un psychothérapeute qui expliquait qu'il a écrit un livre en disant que vivre selon son bon plaisir, cela n'est pas possible parce que ce n'est pas la vie. Et ce psychothérapeute a expliqué que, en fait, après avoir fait les enfants rois, eh bien, que maintenant on était à la génération des adultes rois, qui ne supportent plus la moindre contrariété. Et que dès qu'il y a une petite contrariété, eh ben, comme on a tellement été habitué à avoir tout ce qu'on demandait, eh ben, on sombre dans la dépression, dans la frustration, même on peut devenir agressif parce qu'on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. Et ça, c'est, d'après ce psychothérapeute, la conséquence de notre enfance, de l'enfant roi qui avait tout ce qu'il voulait tout de suite, et ben du coup, il continue en étant grand à vouloir tout ce qu'il veut tout de suite. Et donc il dit, ben en fait, c'est pas une mauvaise chose de voir le bien de nos enfants, mais il faut aussi qu'ils aient leur part de frustration, leur part de contrariété, pour leur apprendre la vie, tout simplement. Et j'ai envie de dire, ben, c'est très juste ce constat, c'est ce que Dieu fait avec nous. Si Dieu, des fois, ne nous donne pas toujours la santé, ne nous donne pas toujours la vie facile, c'est pour nous apprendre, pour notre éducation, pour que l'on puisse progresser. C'est pour notre bien. Et si on le comprend, eh ben, ça peut nous aider à l'accepter, cette épreuve-là. Ça, c'est le premier point que Salomon n'a pas demandé. Salomon n'a pas demandé la longue vie, il n'a pas demandé la santé. Et combien souvent, c'est nous ce que nous demandons. Le deuxième point que Salomon n'a pas demandé, ce sont les richesses. Dieu lui dit, tu n'as pas demandé ni la longue vie, ni les richesses. Ah ça, les richesses, c'est le confort matériel. Hein. Salomon avait déjà beaucoup de richesses. Hein. Il était le roi d'Israël, après David, qui avait déjà engrangé pas mal de choses. Donc, Salomon était déjà riche. On pourrait se dire, oui, il n'avait pas besoin de demander des richesses, il avait déjà. Ceci dit, on sait très bien que la nature de l'homme fait que même ceux qui sont riches en demandent toujours plus. Hein, et que, quel que soit d'entre nous, les pauvres comme les riches, on demande tous avoir plus de richesses, toujours plus de richesses, toujours plus de confort. Et pourtant, nous aussi, Salomon était peut-être riche, mais nous aussi, nous avons du confort. On est en Europe, en situation civilisée, on a à manger chaque jour, à notre faim, voire même plus qu'à notre faim. Nous avons tous un toit, où dormir, souvent dans un lit bien confortable, ce que beaucoup n'ont pas. Donc nous avons déjà tous une certaine forme de richesse. Et pourtant, nous aussi, nous avons tendance à demander toujours plus, toujours davantage, toujours plus de confort. On n'en a jamais assez. Alors, on veut dire, est-ce que c'est mal de demander à avoir des choses, avoir de quoi manger, par exemple? Ben, certainement pas, parce que le Seigneur lui-même, dans la prière exempte qu'il nous a donnée, notre Père, eh bien, nous indique de prier pour notre pain quotidien. Matthieu 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ça fait partie de la prière que le Seigneur nous a donnée. Mais quand il dit « notre pain quotidien », c'est notre pain de chaque jour, c'est la portion suffisante. Ce qu'on a besoin pour aujourd'hui, pas ce qu'on a besoin en surplus, etc. C'est notre pain de ce jour. D'accord ? On peut aussi apporter à Dieu nos insuffisances, nos échecs, comme les disciples, lorsque le Seigneur leur demande de nourrir la foule, les disciples disent, mais tu vois, Seigneur, je n'ai que 5 pains et 2 petits poissons. Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est trop peu. Mais le Seigneur, lui, peut multiplier cela. On peut demander de l'aide. Il n'y a pas de souci à ça, mais des fois, c'est une bonne chose de demander de l'aide. Mais c'est une bonne chose surtout parce qu'il faut savoir reconnaître, s'humilier pour demander de l'aide. Parce que c'est reconnaître ce qu'on en a besoin. Ce n'est pas le surplus, il faut reconnaître son besoin d'abord. Et lorsqu'on reconnaît qu'on est dans le besoin, qu'on est faible, alors on peut demander l'aide du Seigneur pour nous aider. On peut demander la bénédiction du Seigneur pour nous en sortir. Mais c'est accepter d'abord que nous sommes faibles. Je lisais il y a quelque temps le témoignage d'un homme handicapé qui disait que c'était très difficile pour lui au départ de demander de l'aide parce que l'orgueil fait qu'on veut s'en sortir par soi-même. On veut arriver à avoir les richesses, on demande à avoir les richesses, on demande à s'en sortir, on demande à avoir la gloire, mais on veut se débrouiller par nous-mêmes, parce qu'on est orgueilleux. Et demander des besoins, eh bien, c'est quelquefois un pas d'humilité, c'est reconnaître qu'on a un besoin. et reconnaître que ce besoin est réel. Et lorsqu'on demande, eh ben, on nous donnera. Le Seigneur lui-même le dit, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Dans Matthieu au chapitre 7. Mais ce qui est important, c'est de ne pas s'appuyer sur nos richesses. Ne pas considérer cela comme vital. Je parle des richesses au sens large, hein, c'est le confort matériel. Ça doit être notre priorité. C'est un plus. On l'a, c'est bien, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas ce qui doit diriger nos vies. Et ce n'est pas non plus ce qui doit diriger nos prières. Parce que ces richesses, ce confort matériel peut nous détourner de la véritable bénédiction. La véritable bénédiction, ce n'est pas celle que nous avons ici, maintenant. C'est celle que nous aurons au ciel. Et on a un exemple dans la Bible qui nous montre bien le risque de ce confort, de ces richesses. C'est le peuple d'Israël qui a traversé le désert pendant 40 ans. Et juste avant d'entrer dans le désert, eh bien, il y a des tribus, deux tribus, qui se trouvent bien là où elles sont. Elles ne sont pas encore dans le pays promis, mais elles se trouvent bien là où elles sont. Et elles renoncent à aller plus loin. Voyant les prairies du pays de Galaad, les membres des tribus de Ruben et de Gad, particulièrement riches en troupeaux, envoient le responsable faire une requête à Moïse. « Ne nous fais pas passer le Jourdain. » Nombre 32, verset 5. Il renonce à passer le Jourdain, frontière fixée par Dieu. Ils pensent avoir trouvé mieux que le pays promis par Dieu. Ils sont bien là, ils ont l'espace pour leur troupeau. Dieu leur a promis un pays ruisselant de lait et de miel, mais c'est pas grave. Et ils sont déjà très très bien, ils sont confortablement installés. Et donc ils demandent à ne pas aller dans le pays promis. Même Moïse est troublé par cette demande, il les reprend sévèrement. Puis Dieu va accepter leur demande, sous réserve qu'ils accompagnent les autres tribus dans la conquête. Mais cela va avoir des conséquences. Ils vont certes avoir certaines bénédictions, mais pas toutes. Et je pense que cet exemple doit nous servir de leçon à nous chrétiens. Est-ce que quelquefois nous ne sommes pas des chrétiens qui restent en deçà du Jourdain? On est certes sauvés, peut-être, probablement. On fait probablement partie du peuple de Dieu. Mais les affaires de la vie courante, notre confort quotidien, nous fait oublier les promesses de Dieu. Et la promesse de Dieu, elle n'est pas pour la terre maintenant. Elle est pour le ciel, pour l'éternité. C'est là que nous serons bien installés. Et quelquefois, on a l'impression que on est des églises où eh bien, on est bien ici. Finalement, on se retrouve bien entre nous, on a des bons moments fraternels, on a une belle vie, une belle communion. Et quelquefois, on le dit pas, heureusement, enfin j'espère, mais notre attitude donne l'impression de dire « Eh bien, écoute, Seigneur, oui, tes promesses, elles sont très bien. Ben, prépare-nous une place au ciel, mais quand on aura bien fini notre vie ici, parce qu'on est bien ici, donc laisse-nous terminer notre vie tranquille, avec nos richesses, avec nos amis, nos enfants, etc. Puis il faut après, oui, après, là, oui, que tu me prépares au ciel, c'est bien. » Mais non, le Seigneur, lui, nous demande à ce qu'on attende dès maintenant son retour immédiat. Ça devrait nous presser que le Seigneur revienne nous chercher maintenant, tout de suite. Mais notre confort d'aujourd'hui, nos richesses, eh bien, nous font dire au Seigneur, eh bien, écoute, on reste aux portes du ciel, on est très bien là, finalement. Et, les promesses que tu nous as faites, oui, elles sont belles, mais tu nous as déjà fait tellement béni aujourd'hui que c'est bon, on est bien là. Et finalement, ben, ces richesses, ce confort est en piège pour nous. Parce que on se retrouve enfermé sur cette terre qui est très éloignée de la bénédiction qui nous a promis. Et il ne faut pas qu'on se laisse enfermer par cela. Au lieu de cela, on devrait faire ce que le Seigneur nous dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Même Salomon, comme on l'a vu, il a été béni largement, il a eu des richesses. Même Salomon n'a pas été revêtu comme le lys des champs qui va finir au feu ou qu'on piétine. Et nous nous inquiéterions? Non. C'est pour cette raison que nous n'avons pas à demander les richesses. Nous n'avons pas à demander le confort matériel. Dieu nous le donnera si on en a besoin. Dieu nous connaît, il sait ce que nous avons besoin. Il nous le donnera. Ça ne doit pas être le sujet de notre préoccupation. Et la dernière chose que Salomon n'a pas demandé, c'est la mort de ses ennemis. Alors aujourd'hui, vous allez dire, mais on ne demande pas la mort de nos ennemis. Non, on ne demande pas la mort de nos ennemis. Ceci dit, on demande à vivre tranquille, à vivre en paix. On refuse la persécution. On n'aimerait pas, on vient de prier pour l'Église persécutée, parce que c'est bien loin, on n'aimerait pas nous-mêmes être persécutés. Et si on l'était, ben, on demanderait bien à éviter cela. Mais on est probablement aussi aujourd'hui persécutés, et ben, quelquefois, on ne va pas demander à la mort, mais on aimerait bien qu'on priait pour que certaines personnes nous laissent tranquilles, les éloigner un petit peu, que quelquefois, ça nous traverse l'esprit de nous dire « si celui-là, il pouvait lui arriver quelque chose, ça serait bien hein ». Bon, c'est un peu comme souhaiter la mort de nos ennemis, c'est la même chose. Hein. Mais le Seigneur nous rappelle « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». On a toujours cette promesse-là. Et c'est finalement un témoignage que l'on doit avoir tous les jours. Le Seigneur nous demande quelque chose de très difficile. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si on vous tend la joue gauche, si on vous frappe la joue gauche, tendez aussi la joue droite, etc. Et c'est quelque chose de très, très difficile. Je viens de terminer un témoignage de David Classen, si seulement tu n'avais pas la foi. C'est le messager de la paix. Donc David Classen qui a été emprisonné pendant de très nombreuses années en ex-URSS à cause de sa foi, parce qu'il refusait de se plier d'être dans les églises enregistrées où il n'avait pas le droit de faire de mariage, de baptême, de célébrer le repas du Seigneur en toute liberté, et j'en passe, bien d'autres encore. Et il raconte qu'une fois, alors qu'il allait être emmené au tribunal pour la xème fois de plus, il y a une gardienne qui lui lance « Que le Seigneur te bénisse !» comme une phrase assez classique, sachant qu'il était chrétien et que c'est pour ça qu'il est en prison, qu'il était en prison. Et un autre soldat, en même temps, dit en avant, très franche et dure. Et il me dit, ben, ce que le Seigneur te bénisse, que Dieu te bénisse, avait annulé le grossier en avant qui passait derrière. Et ça lui a fait réaliser combien il était difficile d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Et que, ben, quelquefois, on voit que les geôliers, ces personnes qui nous enferment, qui nous jugent. Mais on ne voit pas que ce sont aussi des personnes que Dieu aime et que Dieu voudrait apporter. Et c'est impressionnant de voir comment David Classen arrive à annoncer la parole de Dieu envers ces personnes qui étaient ses bourreaux, envers ses juges qui étaient là pour le mettre en prison. Comment est-ce qu'il leur annonce clairement en disant, même jusqu'à la fin, chaque tribunal se termine en disant, eh bien, vous m'avez jugé, vous m'avez condamné, mais sachez que c'est au ciel que vous-même vous serez jugé et que vous devrez rendre compte de la décision que vous prenez là, sur Terre. C'est pas méchant, c'est juste de l'évangélisation, et aucune parole méchante, aucune insulte ne sort de cette bouche-là. Il est persécuté, mais il accepte cette persécution. Et c'est souvent ce que nous avons le plus de mal à faire, accepter la persécution. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que j'ai un peu traîné. Mais là, on a les trois choses que Salomon n'a pas demandé. Et au lieu de ça, il a demandé un cœur intelligent. Alors souvent, on dit c'est la sagesse. Salomon a demandé la sagesse. Mais le verset précisément nous dit « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Salomon demande la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. C'est finalement, il demande la sagesse pour évangéliser. Pour nous, ça correspondrait à ça, pour témoigner, pour diriger le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à la moisson et aller vers ce peuple aussi pour l'amener. Et ce que Salomon a demandé, c'est la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple. Et nous devrions demander la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple vers l'éternité. Un cœur intelligent. Le cœur, c'est... Bien sûr, on sait que le cœur, c'est physiquement ce qui est en nous, mais c'est justement ce qui est au centre de nous, ce qui nous concerne. C'est notre être tout entier. Et intelligence, dans ce passage, ça veut dire entendre, écouter, obéir. Un cœur qui est capable d'entendre, d'écouter et d'obéir. Et donc, je vais détailler un petit peu ces trois points. Qu'est-ce que ça veut dire, un cœur intelligent, un cœur qui entende, un cœur qui écoute, un cœur qui obéit. Être à l'écoute, un cœur qui écoute. Être à l'écoute autour de nous, être à l'écoute de Dieu. Éternel, entends ma prière et que mon cri vienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille au jour où je crie. Hâte-toi, réponds-moi. Très souvent, cette prière du psalmiste, nous faisons la même. Nous voulons que Dieu nous écoute. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter? Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous lisons sa parole? C'est pour ça qu'on peut écouter Dieu. Est-ce que nous écoutons aussi notre prochain? Nous savons demander à être écoutés, mais est-ce que nous écoutons ceux qui sont autour de nous? Les jeunes ont reçu cette semaine le magazine de Ta Jeunesse, Ton Prochain comme Toi-même. Ils sont invités chaque jour à voir qui est son prochain. Et je pense que c'est une bonne chose que chacun d'entre nous, on réfléchisse à qui est notre prochain au quotidien. Nos collègues, nos amis, nos voisins. Celui qu'on croise au bord de la rue, le SDF, notre patron, etc. Toutes ces personnes-là, ce sont nos prochains, même ceux qu'on ne penserait pas. Et nous devons les écouter. Nous devons entendre leurs cris de détresse, pouvoir leur venir en aide, pouvoir leur apporter la réponse, qui est la parole de Dieu, qui est le salut. Si on ne les écoute pas, on ne pourra pas leur apporter ce salut, ce message. Et donc, la première des sagesses, c'est d'avoir un cœur pour entendre ce peuple qui crie, pour entendre les difficultés, pour entendre ceux qui sont dans le besoin, et il y en a beaucoup. Et c'est dans ce que l'on va faire envers notre prochain que l'on va pouvoir apporter le témoignage. Le Seigneur nous dit que dans la fin des temps, il nous dira « Vous m'avez apporté à manger, à boire, etc. » Et on va dire « Mais... Enfin, » J'espère qu'on va dire « Quand est-ce qu'on t'a fait ça ?» Et il va dire « À chaque fois que vous l'avez fait à chacun de ses plus petits, vous l'avez fait à moi. » Et c'est ce témoignage d'être envers son prochain, savoir entendre son prochain. Le deuxième point, c'est écouter. Un cœur pour écouter. Vous allez dire « C'est la même chose, entendre, écouter. Quelle différence ?» Alors, il y a quand même une différence. Entendre, c'est ouïr. C'est, voilà, il y a un son, je l'entends. Mais écouter, il y a de l'attention dedans. Vous êtes ici, là, j'espère que vous n'entendez pas seulement la parole de Dieu, mais que vous l'écoutez et que vous la mettez en pratique. Hein, c'est ce que nous demande la parole. Et donc, Salomon, il demande un cœur pour entendre, mais aussi pour écouter. L'intelligence, elle va au-delà que juste entendre. Il faut savoir mettre en pratique, c'est ça que ça veut dire finalement, presque. Il faut écouter pour comprendre, pas seulement avoir une douce musique qui est derrière nous et qui nous dit ce qu'on doit faire et puis on le laisse comme ça. Juste parce que des fois, ça nous arrange. Mais quelquefois, c'est dans toute une bonne intention. Je vais reprendre un autre exemple de David Cassen, qui, comme beaucoup, il a été soumis à des tentations importantes, puisqu'il était il a été placé dans une brigade mixte où la fornication était monnaie courante, et c'était très difficile de résister lui, parce que lui voulait se garder fidèle, jusqu'à ce qu'il ait une femme. Et donc ce désir de se marier a beaucoup grandi, et puis il a vu une jeune fille idéale, qui pensait qu'il était fidèle, et s'est dit, je pense que ça va être la bonne personne. Il est allé voir un prédicateur, il a confié à sa mère, qui tous ensemble ont prié pour cela. Et lorsque il écrit à la jeune fille pour lui demander, la jeune fille lui répond qu'elle est fiancée et bientôt mariée. Et d'avoir cette réponse-là, ça va faire sombrer dans la dépression, dans la grande déception. C'est-à-dire qu'il a bien entendu le message de Dieu, non, cette fille-là n'est pas pour toi, elle est déjà fiancée, elle est déjà mariée. Mais il n'écoute pas ce message. Il dit non, je suis dépression, c'est bon, Dieu, il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. Non, c'est lui qui n'écoutait pas. Ça ne voulait pas dire que Dieu ne voulait pas qu'il ait une femme, ça veut juste dire que ce n'était pas celle-là. Et donc, des fois, il faut savoir écouter, il ne faut pas se concentrer sur ce que nous, on avait calculé. Il faut regarder le plan de Dieu. Il faut l'entendre et l'écouter. Aller jusqu'au bout. Et l'écouter, souvent, ça veut dire accepter ce qu'on ne comprend pas tout de suite, parce qu'on sait que Dieu a un plan pour nous. Et effectivement, après, plus tard, il va avoir cette femme qui va lui donner lorsqu'il comprendra que c'est le plan de Dieu, le moment que Dieu lui donne. Et cette femme-là, ce n'est pas lui qui va la choisir en disant comme idéal, mais c'est Dieu qui va lui donner parce qu'il va demander un signe. Et d'une femme qui ne connaîtra même pas, ça va devenir sa femme. Et il fallait vraiment que ce soit une femme sur le plan de Dieu parce qu'il faudra qu'elle supporte des années de séparation, toutes les années où son mari sera en prison après, plus tard. Et donc il fallait une femme vraiment préparée pour cela, et ce n'était pas la femme que lui voyait, mais c'est la femme que Dieu avait préparée pour lui. Et enfin, le dernier point, un cœur pour obéir. Il faut entendre, écouter et obéir. Obéir, c'est agir. Aller jusqu'au bout. Être acteur. C'est très bien d'entendre, d'écouter même, de comprendre le message. Mais j'ai envie de dire, si on le comprend, qu'on l'a écouté, qu'on ne le met pas en pratique, on est coupable. Parce qu'on sait très bien ce qu'il en est. Et si on ne va pas mettre en pratique, c'est encore plus grave. Il faut aller jusqu'au bout. Mais en même temps, il faut savoir le faire et il faut demander à Dieu le cœur pour obéir. C'est-à-dire savoir comment est-ce que l'on doit obéir, comment est-ce qu'on doit agir. On connaît le plan de Dieu et il faut que l'on sache comment est-ce qu'on doit faire. Et là, je prendrai simplement un passage. Enfin, l'explication, c'est que très souvent, il faut savoir agir de deux manières. Il faut savoir agir dans l'amour et dans la vérité. Ce sont deux choses qui sont indissociables parce qu'elles font partie de Dieu. Souvent, on insiste, quand on dit qu'il faut témoigner, on insiste sur l'amour de Dieu. Et puis, on va masquer quelquefois, on va passer de côté quelques vérités pour être plus dans l'amour. Mais ce n'est pas seulement l'amour. Dieu est aussi la vérité, et c'est indissociable. Moi-même, le premier, j'ai quelquefois tendance à être un peu dans ce, ce genre-là, être plus sur l'amour, et puis, bon, passer un petit peu sur la vérité pour dire, ben, ça, c'est plus important. Non, c'est pas plus important. L'amour est aussi important que la vérité. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Quelquefois, certains sont trop rigoureux et vont être absolument sur la vérité, la vérité, la vérité. Et on en oublie l'amour. Les deux sont indissociables. Il faut savoir dire la vérité avec amour. Et c'est comme ça que qu'on doit agir pour Dieu. Agir selon Dieu, avec sagesse. C'est savoir agir avec vérité et amour. Et pas avec vérité ou amour. C'est les deux ensemble. L'apôtre Paul dit « L'amour se réjouit avec la vérité. » Et pas l'un sans l'autre. En conclusion, je dirais que oui, Dieu répond à la prière. Il répond à nos demandes. Il répond positivement même lorsque l'on prie selon sa volonté, c'est sa promesse, selon ce qui lui plaît. Et pour cela, eh bien, il suffit de ne pas être en souci de notre quotidien, de notre santé, de notre sécurité, mais d'être confiant dans le Seigneur qu'il nous donnera toutes ces choses-là parce qu'il sait quels sont nos besoins. Mais sachons prier pour notre pays, pour nos voisins, pour nos amis, pour nos collègues, pour notre prochain au sens large. Sachons demander la sagesse, un cœur intelligent pour diriger son peuple vers le ciel, pour moissonner. Autrement dit, un cœur intelligent pour évangéliser. Combattre dans la prière, combattre pour nos frères, pour nos fils, pour nos filles, pour nos femmes, pour nos maisons, pour qu'ils puissent avancer tous vers son royaume. Et ça veut dire savoir accepter la réponse. Prier pour un cœur intelligent, c'est prier pour être à son service. Ça veut donc dire suivre les plans de Dieu et non les nôtres. Et sachant qu'en choisissant cette voie, ben Dieu prendra soin de nous, dès à présent et pour l'éternité, si on accepte de suivre son chemin.